Session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le Père Marie-Dominique Philippe, première conférence, le 4 juillet 2001 à Saint-Gédor.
Troisième jour de la session, c'est le jour le plus important. Parce que on s'est un petit peu habitué. Et maintenant, il s'agit de bien comprendre. Alors, je reviens un instant sur cette question que toute la philosophie réaliste, philosophie de l'être, est finalisée par ce grand développement le plus profond de notre intelligence humaine, découvrir celui qui est notre source, celui qu'on appelle Dieu, selon les traditions religieuses. L'erreur, je crois, de la scolastique qui a voulu être la philosophie de Thomas d'Aquin, la scolastique thomiste. On a pris ce que saint Thomas disait comme une réflexion théologique, une critique théologique sur la capacité de notre intelligence à remonter jusqu'à Dieu. La réflexion critique présuppose que la démarche soit déjà faite. Et on réfléchit sur cette démarche. Donc la réflexion critique est stérile. Comprenez ce que je dis. Il n'y a pas de fécondité. C'est s'assurer que c'est du béton. Que ça tient bien. Que ça tient la route. Et on est resté fixé sur les cinq voies. On a fait des thèses. Moi-même, je n'en ai pas fait, mais j'ai fait passer des examens sur un étudiant qui faisait une thèse sur la prima via, sur la tertia via, sur la quarta via. Et toujours, ça trottait dans ma tête. Peut-on séparer les cinq voies? Comme je dis en critique, c'est normal de voir cinq voies. Et c'est très intéressant. En réalité, c'est l'intelligence humaine qui monte, qui gravite la montagne. Alors, c'est très vrai. Elle la gravite d'abord en étudiant ce qui est mu. Elle la gravite en regardant le vivant. Elle la gravite en regardant ce qu'est le nécessaire. Elle gravite en regardant ce qui est le sommet. Et en dernier lieu, elle voit que qu'elle ne peut dépasser tout ce qu'elle peut expérimenter et dépasser toutes ses conclusions que par la finalité. Et alors, il y a un moment de réflexion quand on est non plus au plan critique, mais au plan de la recherche. Quel est le lieu où je pourrais le mieux découvrir ce dépassement de tout ce que j'expérimente? Je me place là où l'expérience est la plus parfaite. Quelle est la plus parfaite expérience humaine que je puisse avoir? comme expérience, c'est-à-dire impliquant le toucher. Je touche une réalité, je touche le petit crapaud, il existe. Je sais qu'il ne faut pas le toucher trop parce que c'est vénéneux, mais ce n'est pas très agréable. Mais il existe. Quelle est l'expérience qui unit l'expérience externe, l'expérience interne? Et c'est là où je dis l'amour d'amitié est le lieu le plus parfait où j'unis l'expérience externe. Mon ami, je lui serre la main, il est. Ou bien, si je suis mexicain, je l'embrasse. Et je lui tape dans le dos pour bien montrer qu'il existe et qu'il résiste. Donc, il y a l'expérience la plus parfaite, immédiate, et intérieurement, l'expérience la plus grande que j'ai, c'est l'amour d'amitié. J'aime l'amour de mon ami. Je me sers de son amour pour qu'il soit plus proche de moi. Ça, c'est unique. Et l'intelligence, il y a un choix. Je cherche la vérité. Mon intelligence est tendue vers cette recherche la plus profonde de la vérité. Je touche une personne. Et je sais que la personne, parmi toutes les réalités que je peux constater, c'est la réalité la plus parfaite. L'éléphant, c'est un animal très respectable. Très respectable. Parce qu'il vit très longtemps. C'est un vieillard, l'éléphant. Il a une démarche de vieillard, du reste. Quand il trotte, ça fait branler la terre. Il n'est rien à côté d'une personne humaine. Un requin, bête farouche, pas commode, indompté, indomptable, n'est rien à côté de la personne humaine. La personne humaine, c'est vraiment le sommet. Toute ma philosophie tend à, je dis, ma philosophie, l'analyse philosophique, tend à préciser ce qu'est la personne humaine. Et je précise ce qu'est la personne humaine en mettant les 7 dimensions et les 6 dimensions. L'autonomie, la recherche de l'intelligence, la capacité d'aimer et d'aimer dans l'amitié, la prudence, la sagesse pratique, l'art, je peux transformer mon milieu et mon corps, mon conditionnement substantiel. Je porte ma maison. Avec mon corps, je porte ma maison. Je suis un animal très particulier. Il y a des animaux qui portent leur maison. Une tortue. Cet animal très spécial, vénérable. Une tortue. Ça porte sa maison. Et une mission dure, hein. Ça, taper sur la tortue, hein. Au-dedans, oui, je tape, vas-y, tape. Je suis très bien dans ma prison. Et elle rentre sa tête, on voit rien. Puis tout d'un coup, elle sort sa tête. Quand on a cessé de taper, on voulait faire l'inverse. On tapait pour qu'elle sorte sa tête. Elle a un langage inverse d'une autre. dit, on comprend son langage. Et nous avons, nous, notre carapace, hein, qui est substantiellement uni et qui est notre conditionnement. Notre corps, c'est notre conditionnement. C'est pas notre finalité. Hein. C'est pas la finalité. Je ne vis pas pour mon corps. Mais je m'en sers. Et je sais jusqu'où je peux m'en servir. Je connais les forces et les capacités de mon corps. Et je suis obligé de temps en temps de vérifier si c'est bien comme ça. Il y a 6 dimensions. Toute la philosophie consiste à découvrir ces 6 dimensions au point de vue de l'être. Et la 7e dimension, c'est lorsque je découvre l'existence de Dieu. Je découvre à ce moment-là que la dimension la plus profonde qui est en moi, c'est de découvrir l'existence de Dieu et de reconnaître ce qu'est Dieu pour moi. Toute ma philosophie est pour cela. Mais ça vaut la peine. C'est l'Himalaya. Quand vous êtes devant un matou, vous dites, très bien, oh, c'est le Mont Blanc. Moi, j'ai le mieux l'Himalaya. Vous dites ça. Parce que le mathématicien ne peut jamais aboutir à une connaissance parfaite de Dieu. Husserl, à la fin de sa vie, il a commencé par les mathématiques, il a terminé par la phénoménologie, et à la fin de sa vie, ce qui n'a pas été édité de son vivant, il aboutit à la valeur. Dieu, c'est la valeur suprême. Vous comprenez que la valeur, Dieu n'est pas une valeur, parce que la valeur, c'est par rapport à vous. Nous avons notre table de valeur. Pour les uns, c'est l'intelligence. Pour les autres, c'est le cœur, c'est l'amour. Pour les autres, c'est la prudence. Pour les autres, c'est l'art. Pour les autres, c'est le corps. Un athlète. Voyez, regardez mon corps, hein. C'est quelque chose. Oui. Quand on passe à Goliath, hein, c'était son corps. Et le petit David à côté, oh, une puce à côté de lui. Goliath rigole. Et le démon se fait Goliath. Le démon se fait quelquefois artiste. Le démon se fait quelquefois prudent. Il se fait valeur. Valeur, c'est l'intelligence. C'est dans mon intelligence, les valeurs. Et c'est dans mon cœur aussi. C'est pas la finalité. La finalité, c'est autre chose. La finalité, c'est toucher un être existant en dehors de moi qui est bon, qui est infiniment bon, qui n'a pas de limite et qui m'attire. C'est une personne. Vous voyez, cette aventure du philosophe, hein, c'est une grande aventure. C'est mieux qu'un cosmonaute. Hein, parce que plutôt que d'aller habiter dans la Lune, j'aime mieux découvrir Dieu. Oui, oui. Je l'avoue, j'aime mieux découvrir Dieu. C'est plus intéressant. Découvrir dans la Lune, c'est un exploit. Tout le monde en parle. C'est extraordinaire. Jusqu'à la fin de la vie, petite décoration de cosmonaute. Tandis que découvrir Dieu, personne n'en parle. Mais découvrir Dieu est infiniment plus grand. Et quand je découvre Dieu, philosophiquement, je découvre mon Père. Ah, c'est cela que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. La découverte de Dieu n'est pas la découverte d'un personnage illustre, merveilleux, que les traditions religieuses ont parlé, un personnage étonnant, mais qui m'est complètement indifférent. Dieu siège au-delà de notre univers. Son royaume n'est pas de ce monde. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire avec Dieu ? C'est très bien de le découvrir, oui, je respecte. Mais qu'est-ce que ça va faire ? Ah, il est père. Et au point de vue philosophique, la découverte de Dieu, c'est la découverte de mon Père. C'est la découverte de celui qui a fait ce qui en moi est le plus profond, le plus intime, le plus merveilleux. C'est lui qui a façonné mon âme, qui a créé mon âme. Il est mon Père. Alors voyez, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est pour frapper à la porte. On découvre, oui, il existe un être premier, c'est très vrai. Il existe une intelligence première, c'est très vrai. Il existe un amour premier, c'est très vrai. Il existe un vivant qui n'est que vivant. Il n'y a rien en lui de corporel. Il n'y a rien en lui de fêlure. Il est vivant. Il est vivant dans tout son être. Et son être et sa vie ne font qu'un. Et son intelligence et son être ne font qu'un. Il est une personne unique. Celui que je découvre comme étant l'être premier, source de tous les êtres, créateur de mon âme, c'est un être unique. Que je ne peux pas définir. Je ne peux que l'adorer, reconnaître qu'il est infiniment grand. Infiniment. Pas de limite. Alors, vous voyez, c'est très vrai. Et les cinq voies de saint Thomas ont touché quatre grandes déterminations de Dieu par rapport au monde physique. Dieu est un être immobile par rapport au vivant. Il est un vivant sans faille par rapport au nécessaire. En lui, tout est nécessaire, parce qu'il ne dépend de rien. Il est la vie nécessaire. Il est l'être nécessaire. Il est au sommet de tout. Maxime étalé. L'expression de saint Thomas est très belle. Hein? Maxime étalé. Celui qui est au-dessus. Maxime étalé. Au-dessus de tout. Il est la vérité, il est la bonté, il est l'éternité. Maxime est allé. Tout est sa personne, son être, son intelligence. Il est celui dont la vie et de se connaître. Aristote a décrit de la manière la plus parfaite ce qu'était l'être premier. Il est celui qui est la contemplation de la contemplation. Il se contemple lui-même. Noésis, noéseos. Noésis, la pensée de la pensée. Dieu ne peut avoir comme objet de contemplation que lui, parce qu'il est. Et que toutes les autres réalités dépendent de lui, sont relatifs à lui. Donc, si Dieu était déterminé par une autre réalité que lui-même, il serait dépendant de cette réalité. Il ne serait plus l'être premier. Mais parce qu'il est l'être premier, il est totalement indépendant, c'est-à-dire nécessaire, la nécessité même, la nécessité dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'acte d'être. Et c'est pour ça que son intelligence se contemple. Vous voyez, c'est curieux, hein, ce que je vous dis là, c'est très actuel de dire ça. Saint Thomas reconnaît que c'est la chose la plus pénétrante que l'intelligence humaine peut dire sur Dieu. La pensée de la pensée, la contemplation de la contemplation, l'amour de l'amour. Et ce seul n'est en Dieu, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que il est la pensée de la pensée et tout le reste, il le pense. Il l'aime en s'aimant. Il est unique. Un philosophe comme Hegel commence sa philologie de l'esprit en rappelant ce que dit Aristote. L'intelligence première, c'est la pensée de la pensée. Et l'erreur de Hegel, c'est de dire « mon intelligence, c'est comme l'intelligence de Dieu ». Il fait cette petite confusion. Dieu est premier dans son intelligence. Il est substantiel dans son intelligence. Tandis que Hegel n'est pas substantiel dans son intelligence. C'est l'intelligence d'un homme. Il confond l'intelligence d'un homme et l'intelligence de Dieu. C'est vrai, les deux sont intelligents, Dieu et Hegel. Quand Hegel a vu Dieu face à face, il a dû dire, c'est sûr. Dieu, l'intelligence subsistante, son être, c'est son intelligence. Votre être n'est pas votre intelligence. Votre être n'est pas votre amour. Parce que, c'est vrai, Dieu et Hegel sont intelligents. Dieu est intelligent. Hegel est intelligent. Mais selon deux modalités tout à fait différentes. Dieu, c'est la première intelligence. L'intelligence maximée d'aller. Il ne peut pas y avoir une intelligence plus parfaite que l'intelligence de Dieu. C'est pour ça que quand je fréquente Dieu, je deviens intelligent. dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, si vous fréquentez Dieu, et même si vous reconnaissez que vous n'êtes pas très intelligent, vous deviendrez intelligent. C'est merveilleux, ça. Et Dieu, il est le bonheur. Et vous êtes malheureux. Fréquentez Dieu, il est le bonheur. Et vous serez heureux. Et vous cherchez des procédés à être heureux. Mais il n'y en a qu'un, il y a être Dieu, puisqu'il est être auprès de Dieu. Vous pouvez. Alors, allais-tu faire un acte d'humilité? Peut-être le premier de sa vie. Un acte d'humilité. Je ne suis pas Dieu. Mais je l'aime. Pardon, Dieu, de m'être identifié à toi. C'était par amour pour toi que je m'identifie à toi. C'est pour être plus proche de toi, mais j'oubliais qu'il fallait être à ma place, tout simplement, et lever mon regard vers toi. C'est merveilleux de découvrir Dieu à partir de mon ami. Vous comprenez que c'est beaucoup plus intéressant de découvrir Dieu à partir de mon ami que de le découvrir à partir du crapaud. C'est quand même mieux. À partir de mon ami, je dis, il est aimé. Il est souverainement mon ami. Après avoir découvert l'être premier, découvert autant qu'on peut ce qu'il est, l'être qui se pense lui-même, qui se contemple lui-même, puisque la pensée parfaite, c'est la contemplation. Et la pensée en Dieu est parfaite, donc il contemple. L'amour, il est souverain en Dieu, Dieu s'aime. Je me pose la question. J'ai découvert l'existence d'un être premier à partir de mon ami. Tout ce qui est grand en mon ami m'attire vers Dieu. Et les limites de mon ami me montrent qu'il est dépendant d'un être premier. Et j'essaie de préciser quelle est la relation que je puis avoir avec cet être premier, cette première intelligence, ce premier amour, cette première personne. Quel est le rapport ? Et j'affirme tout de suite que je suis totalement dépendant de lui dans mon être. Mon être, je ne suis pas maître de mon être. Je suis totalement dépendant de lui quant à mon intelligence. Mon intelligence, par où je l'ai découvert, me montre qu'il y a une parenté entre nous. Autrement, je n'aurais pas découvert. Pouvoir affirmer l'existence de Dieu, je découvre en même temps la noblesse de mon intelligence et la puissance de mon amour qui me permet d'affirmer qu'il existe. En essayant de regarder quelle est la relation qui peut exister entre moi-même et cet être premier. Je vois que je dépends de lui quant à mon intelligence, quant à mon amour, quant à mon être. Et quelle est cette dépendance ? Elle est radicale, puisqu'elle regarde mon être. Elle est au sommet, puisqu'elle regarde mon intelligence. Dépendre dans mon intelligence et dans mon être, dépendre dans ce qu'il y a de plus foncier en moi, il y a ce qui est l'ultime en moi. Cette dépendance ne peut être que l'indépendance de celui qui reçoit tout de lui. Donc, d'un créateur. Mon être est tout entier relatif à Dieu. Par la finalité, j'ai découvert que Dieu était celui qui me finalisait. Donc, son être est source du mien. Et je dépends de lui. Lui ne dépend pas de moi, et moi je dépends totalement de lui. Et c'est pour ça que je reconnais que, ayant découvert l'existence de Dieu, je dois immédiatement l'adorer, reconnaître ma situation exacte en face de lui. L'adoration est un acte que je ne peux faire qu'en face de celui qui est le maître de mon être, de celui qui a créé mon être et qui l'a créé par pur amour. Il l'a créé dans sa sagesse. Il l'a créé par pur surcroît d'amour. Dieu n'était absolument pas obligé de créer. Autrement, il n'aurait pas été Dieu. Il y aurait eu un manque. Ceux qui disent que Dieu crée nécessairement pour être Dieu, Hegel dit ça. Parce qu'il est Dieu. Alors, il considère que lui, s'il ne fait pas quelque chose, il lui manque quelque chose. Et ça, c'est vrai pour Hegel. Si Hegel n'avait rien fait du tout, il a écrit au moins des livres. Il a fait quelque chose. Dieu a créé, Hegel fait des livres. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Hein. C'est vrai. Créer des cathédrales, c'est magnifique. Et c'est quand même une œuvre finie. Mon être, ce que je suis, c'est Dieu qui l'a créé. Et je précise que créer est un acte propre de Dieu et que Dieu seul peut créer, c'est-à-dire communiquer l'être, faire de rien quelque chose. La création, c'est à partir de rien. d'habitude, on transforme la matière, les couleurs, la terre, la pierre. Mais il y a toujours une matière antérieure à ce qu'on fait. Dieu vient à partir de rien. C'est-à-dire que tout vient de lui. Oh, c'est extraordinaire. Tout vient de lui. Et Dieu ne s'appauvrit pas en créant. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est suprême. Dieu crée en mon âme, ne s'appauvrit pas. Ne s'enrichit pas, il reste immuable, il reste Dieu. La création a été un acte de surabondance, un acte de pur don. Dieu a créé mon âme comme un pur don. C'est magnifique de découvrir cela. Ma situation à l'égard de Dieu, c'est cette situation de celui qui a tout reçu de lui. Ah, je dis, ah mais mon corps, il vient de mes parents. Ah oui, attention, Dieu a voulu, par magnanimité, lorsqu'il a créé Adam, il n'y a pas de père avant Adam. Il n'y a pas un sur-Adam, une sur-Ève. Non. Ils sont premiers. Tu les as créés. Peut-être petit enfant, ou bien au contraire tout de suite adulte. Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Quand vous saluerez Adam, vous comprendrez que Dieu est grand, il a créé Adam, et vous a créé ensuite. Après plusieurs années, Adam est assez loin, mais je peux le rejoindre, même. Parce qu'il a créé dans le temps. Dieu éternel crée dans le temps, et le temps vient de Dieu, à partir des êtres créés. Tant que l'homme n'était pas créé, il n'y avait pas de temps. Ah, c'est curieux. Le temps vient de Dieu et vient de l'homme. C'est une création de l'homme, le temps. C'est très vrai. Lundi, mardi, mercredi, c'est curieux. Hein. Pour Dieu, l'éternité. L'éternité est comme un jour, c'est vrai. C'est l'homme qui a créé ça. Dieu, créant l'homme intelligent, lui a donné la possibilité d'organiser autour de lui, par le temps et par le lieu, Dieu a communiqué ce qu'il est, tous les possibles qu'il peut créer, il les a créés par pure surabondance, par pur amour, sans aucune influence. Je suis le fruit d'un amour de Dieu pour moi. Je suis le fruit d'un amour efficace, réaliste pour moi. C'est par pur amour que Dieu m'a créé. Quand je comprends cela, alors je remercie Dieu et je l'adore. C'est ma réponse. Il faut d'abord saluer le Créateur. Dieu, être premier, intelligence première, amour premier, personne humaine première, est adorable. C'est-à-dire qu'il faut l'adorer, il faut l'aimer, il faut le connaître autant que je peux. Tout ce que Dieu a fait, mon âme, l'âme de mon ami, a été créée par Dieu comme moi. Et avec mon ami, j'adore Dieu, puisqu'il m'a aidé à le découvrir. Et donc, il m'aide à le reconnaître comme Dieu, comme Créateur. Et je l'adore. C'est curieux, hein? Au point de vue, le philosophe ne peut pas dire plus, hein? Il ne sait pas comment Dieu a commencé la race humaine. Hein? Je ne sais pas. Puisqu'il n'y a pas de témoignage. Mais le croyant croit au Créateur, et que le Créateur a voulu tout de suite créer les deux, le couple, l'homme et la femme. Parce que l'homme tout seul se serait terriblement ennuyé. Et le problème ne s'est pas posé pour la femme, puisque l'homme était avant. C'est curieux. Ça fait comprendre que Dieu a voulu qu'il y ait ce lien d'amitié tout de suite pour qu'il soit plus présent et qu'on comprenne mieux ce qu'il est, Créateur. Dans un amour pur, dans un don total. Comme l'ami m'a permis de découvrir Dieu, l'ami me permet de l'adorer. L'adoration étant un acte très personnel, le plus personnel qui soit, puisque c'est l'acte qui m'unit à mon Créateur. Et mon Créateur m'a créé, moi, tout seul, directement. Cet acte tellement personnel, Dieu aime qu'il se fasse avec mon ami. Comme il désire que mon ami m'a aidé à le découvrir, son existence. C'est très important de saisir cette gratuité d'amour qui est au point de départ de ma vie, au point de départ de mon âme. Dieu s'est servi des causes secondes, de mon père et de ma mère pour former mon corps. Oui, c'est vrai. Dieu leur a fait ce très grand honneur de conquérir, de coopérer à la création de mon âme. Coopérer de l'extérieur, pas directement. Dieu a créé mon âme directement. partir de rien. Mais il a créé mon âme à partir de du travail de mon père et de ma mère, à partir de la formation de mon corps. Il a créé mon âme. Il y a donc, dès le point de départ, dans cette liberté absolue de la création, cette volonté de Dieu, qu'il a réalisé cet acte purement gratuit avec mes parents. Et ça, c'est voulu par Dieu. Et vouloir modifier cela, ce serait aller contre la sagesse de Dieu, ne pas reconnaître ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a fait. Et c'est ça le plus grave, ne pas reconnaître la sagesse de Dieu, ne pas reconnaître cet acte éminent que Dieu a voulu réaliser. Cet acte de gratuité pure avec l'aide qu'il a voulu, il n'en avait pas besoin, avec l'aide de mes parents. D'où, quand nous créons quelque chose d'original, de gratuit, on aime bien que ce soit nous, puis on signe. Il y a notre marque. Si on peut le faire tout seul, on le fait tout seul. C'est mieux. Dieu, par pure surabondance, a voulu que notre vie humaine soit le fruit de sa gratuité absolue et de la générosité de nos parents. Il a voulu ce baiser merveilleux de sa gratuité et de l'amour de notre père et de notre mère pour, en quelque sorte, sceller notre commencement. Commencement de chacun d'entre nous dans l'amour humain et dans la gratuité divine. Et c'est cet assemblage de la gratuité divine et de l'amour humain qui est cette merveille de l'apparition de l'homme. De l'apparition d'un être humain. Et ça continue. Et ça, c'est merveilleux de voir que Dieu a voulu ce concours et l'homme est en train de vouloir le détruire sans l'admirer, sans voir que c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Et la chose alors encore plus merveilleuse, ce surcroît dans la merveille, c'est que ce Créateur, il est Père. Il n'est pas seulement Créateur, il est Père. Parce qu'il a voulu que notre âme soit un être spirituel. Dieu a voulu non seulement créer des animaux, non seulement créer des éléphants, non seulement réaliser cet univers extraordinaire, merveilleux, il a voulu créer une âme spirituelle dans le corps humain. Il a voulu que cet être nouveau qui apparaisse, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Dieu soit vraiment le Père. Et donc, il est vraiment Fils de Dieu, naturellement, puisque Dieu a créé l'âme humaine, un être spirituel, un être capable de penser, capable d'aimer, capable d'être une personne. Dieu n'a pas gardé pour lui et pour lui tout seul la dignité de personne. Il a voulu la participer avec chacun d'entre nous. La dignité de la personne. Et que nous soyons capables, grâce à lui, d'organiser notre vie, de rechercher ce qu'il y a de plus grand dans notre vie, d'être des fils dignes de leur père. Alors, quand je découvre Dieu comme créateur de mon âme, j'adore Dieu. Quand je découvre Dieu comme mon Père, je veux le connaître et le contempler. Ce n'est plus suffisant d'adorer. Je suis introduit, je m'introduis, je frappe à la porte. Celui qui frappe, on ouvrira. Je frappe à la porte. Mon Créateur, je puis le connaître, je puis l'aimer, c'est mon Père.